carrefour des arts. Une émission de la rédaction de Canal Académie. On retrouve Élodie Courtejoie.
Bonjour, Carrefour des Arts consacre une série d'émissions à l'œuvre ultime dans l'art. Un rendez-vous que nous vous donnons régulièrement avec le professeur Jacques-Louis Binet. Notre intervenant a une double casquette, celle d'hématologue, secrétaire perpétuel honoraire de l'Académie de médecine et celle de correspondant à l'Académie des Beaux-Arts. Et pour ce nouveau numéro, nous partons au XVIIIe siècle à la rencontre de Jean-Siméon Chardin, artiste connu pour ses natures mortes, ses peintures de genre et ses pastels qu'il a réalisés à la fin de sa vie. Jean-Siméon Chardin fut membre de l'Académie royale de peinture. Proust a dit de lui « De Chardin, nous avons appris qu'une poire est aussi vivante qu'une femme et qu'une cruche est aussi belle qu'une pierre précieuse ». Voilà donc la première phrase que je voulais citer pour vous introduire, Jacques-Louis Binet. Nous allons bien sûr parler des pastels de Chardin, mais comment pourrions-nous introduire cet artiste pour en parler ?
Bon, on l'introduit par sa vie, c'est tout simple. Et sa vie, ça se passait dans le quartier, à l'endroit où on enregistre. Vous savez qu'il est né rue des Saints-Pères et qu'il est mort au Louvre. Il est mort à 90 ans, donc c'est un homme du quartier qui n'avait qu'à traverser la Seine pour passer d'une rive à l'autre. Il devait la traverser souvent. Alors, il y a d'abord beaucoup de références, et c'est la raison pour laquelle je crois qu'il faut tout de suite la signaler aux auditeurs. Il y a des textes admirables qui ont été publiés, écrits par aussi bien Proust que les Goncourt, que Pierre Rosinbert, dont qu'il faut tout de suite citer parce qu'il a été l'homme de Chardin, l'homme qui l'a ressuscité. Cézanne s'en est aussi mêlé. Enfin, le monde et la ville est autour de lui. Et ses textes figurent dans les catalogues. C'est assez simple. Ils sont encore trouvables. Il y avait le catalogue de l'exposition du Grand Palais en 79, qui fêtait donc le bicentenaire de sa mort. Et puis, il y a eu le catalogue de l'exposition en 99, 20 ans plus tard, chez Flammarion, qui a l'avantage de reprendre les mêmes tableaux, mais de les commenter d'une manière différente. Voilà, ça, ce sont les deux références. La deuxième référence, puisqu'on parle de l'œuvre ultime, c'est la maladie. Bon, il est mort vieux. Enfin, maintenant, on ne sait plus à quel âge on est vieux. Bon, mais il est mort à 80 ans, qui de son temps était quand même pas du tout un exploit. Et jusqu'à la fin de sa vie, il a continué à travailler. Alors, pourquoi les pastels ? Eh bien, les pastels, d'abord, ont une raison médicale. Si je peux dire, une raison, en tout cas un motif, puisqu'il avait beaucoup peint à l'huile, par définition, il avait fait beaucoup de natures mortes à l'huile, et qu'il a des problèmes oculaires, sans doute liés aux colorants. Vous savez, il maniait n'importe quel colorant, et toutes les saloperies du monde dans ce qu'il mettait dans la couleur, et lui n'y arrivait plus. Alors il s'est mis au pastel, qui est une sorte de crayon, enfin ça se présente comme un crayon, et en plus, deuxième modification, il a attaqué les portraits. Et parmi les portraits, les autoportraits. De telle sorte que dans les 3 et 4 pastels dont on va parler, on a vraiment l'autodescription de quelqu'un qui vieillit. Donc, si vous voulez, on est en plein sujet et un autosujet. Voilà le cadre. Bon, dernier cadre. Autrefois, enfin, il y a encore 6 mois, ces pastels étaient dans un endroit admirable du Louvre qui s'appelle le couloir des poules, qui est un couloir qui est situé au deuxième étage et qui regarde vers la Seine, qui était dans l'obscurité, enfin, qui ne recevait peu de lumière. Donc, on pouvait, les pastels étaient protégés. Alors, j'ai vérifié hier avant de venir ici. Malheureusement, pour le moment, ce couloir est en travaux. Mais j'espère que ça ne va pas durer. J'espère qu'on y remettra les pastels de Chardin parce que c'est vraiment un des grands moments du Louvre.
Vous avez parlé des motifs médicaux, vous avez parlé de ses problèmes oculaires. Alors, on l'a dit aussi qu'il avait la maladie de la pierre.
Voilà, alors la maladie de la pierre, c'était ce qu'on appelle la lithiase urinaire ou la crise de goutte, vous voyez. C'est une maladie qui a toujours existé et qui existait du temps de Chardin, qu'on connaissait beaucoup moins bien. Donc on n'est jamais très sûr, quand on parle de maladie de la pierre, si c'était la même qu'aujourd'hui. Toujours est-il que c'est une maladie qui fait mal, qui provoque des infections, et en particulier des infections urinaires, et qui, à la fin, à cause du retentissement sur le rein, plus maintenant du tout, mais autrefois, pouvait provoquer la mort du patient. Il l'a eu assez tôt, il l'a eu vers 72, on en parle, et ça se termine par un tableau qu'on ne connaît plus maintenant, qu'on appelle l'hydropysie. L'hydropysie, ça veut dire qu'il y a un gonflement du corps, et de la partie inférieure du corps, et ça, c'était lié à l'insuffisance de fonctionnement du rein. Et quand ces médecins décrivent sa maladie, ils écrivent, voyez, dans les derniers temps, ses jambes s'enflèrent, enfin l'hydropisie avait gagné la poitrine. Avant, les médecins étaient plus modérés, ils disaient très peu de choses, ils disaient « Monsieur Chardin était tourmenté de la pierre pendant longtemps, elle ne s'était cependant pas entièrement formée, s'en allait par petites écailles ». Ce qui montrait qu'il était quand même, je ne veux pas dire un milieu médicalisé, mais que sa maladie, il la vivait. Et puis à la fin, il n'y avait plus rien à faire, et un de ses grands amis qui a beaucoup écrit sur lui, il termine, Monsieur Chardin a reçu le bon Dieu, il est dans un état d'apaisement qui donne les plus grandes inquiétudes, il a toute sa tête, l'enflure des jambes est passée dans différentes parties de son corps, point, et il meurt à la fin de l'année 79. Donc ce qu'on va voir, ce sont 10 ans de pastel.
Alors justement, il remplace donc ses pinceaux par ses pastels, c'est ce que vous venez de nous expliquer, et il va se représenter lui-même, au cœur de la vieillesse, un photomaton de la vieillesse même, pour être.
Oui, c'est mieux qu'un photomaton.
À travers donc 3 portraits.
Les 3 portraits, on rajoutera celui de sa femme.
Plus celui de sa femme.
Sa deuxième femme, à laquelle il était très lié, et qui simplement, parce que c'est aussi un tableau magnifique, même si la maladie n'est pas encore là. Pour le premier qui date de 71 et qu'on appelle 1771. L'autoportrait au bésicle. Pardon de ce terme de bésicle, mais c'est le terme consacré. Je ne sais plus s'il fait partie du dictionnaire. Et je voudrais simplement, très rapidement, vous résumer, ou plutôt vous lire quelques phrases du texte de Proust, parce que c'est un texte admirable. Au-dessus de l'énorme lorgnon descendu jusqu'au bout du nez qu'il pince de ses 2 disques de verre, tout en haut des yeux éteints, les prunelles sont remontées avec l'air d'avoir beaucoup vu, beaucoup raillé, beaucoup aimé, et de dire avec un ton de fanfaron et attendri, eh bien oui, je suis vieux. Sous la douceur éteinte dont l'âge les a saupoudrées, elles ont de la flamme encore. Mais les paupières fatiguées comme un fermoir qui a trop servi sont rouges au bord, et comme le vieil habit qui enveloppe son corps, sa peau, elle aussi, a durci et passé. Comme l'étoffe, elle a gardé presque avivé ses tons roses et par endroits s'étendue d'une sorte de nacre doré, et l'usure de l'une rappelle à tout moment les tons de l'usure de l'autre, étant comme les tons de toutes les choses finissantes, depuis les tisons qui meurent, les feuilles qui pourrissent, les soleils qui se couchent, les habits qui s'usent et les hommes qui passent, infiniment délicats, riches et doux. Et il résume par une sorte de petit dessin merveilleux. On s'étonne en regardant le tableau, comment le plissement de la bouche était... Regardez le tableau, vous voyez, comment le plissement de la bouche est exactement commandé par l'ouverture de l'œil, à laquelle obéit aussi le froncement du nez. Le moindre pli de la peau, le moindre relief de la veine est la traduction très fidèle et très curieuse de ces 3 originaux correspondants. Ce qu'il appelle les correspondants sont les signes de la vie, le caractère, la vie, l'émotion présente. On peut rarement parler aussi bien d'un tableau. Et d'ailleurs, plus personne après n'en a parlé, c'était classé.
Pourquoi Chardin aurait-il choisi de se représenter et de se représenter plusieurs fois ?
D'abord, l'autoportrait, c'est un genre en peinture. En plus, alors, merci de me poser cette question, parce que passant dès la nature morte de la raide où tout le monde en parle et qui nous embête, parce qu'on l'a vu 10 000 fois et qu'au fond, je ne sais pas si c'est un si grand tableau que ça, c'était un grand tableau pour l'époque, mais maintenant, on n'est plus très excité par la raide. De passer de la nature morte ou de l'animal mort à l'individu, au portrait, en peinture, c'était une promotion. Vous savez que les peintres étaient classés en genre et que le genre Chardin, il est rentré difficilement, il n'a pas été aux Beaux-Arts, il est rentré à l'Académie, mais très brillamment, à cause de l'arrêt, mais un tout petit peu difficilement, si vous voulez, à cause de l'arrêt. Donc le jour où, en toute liberté et ne pouvant pas faire autrement, il attaque le portrait, il a l'impression de faire sûrement quelque chose de nouveau. Puis lui-même, c'est lui-même. Il n'était pas gâteux, il vivait. Et c'était assez bien qu'il se regarde dans la glace et qu'il ne se contente pas des horribles photomatons actuels. Voilà. Je crois qu'on en reste à ce tableau. On peut passer au second.
On va passer au second, effectivement. Donc, toujours un autoportrait, bien sûr, avec cette fois-ci un abat-jour.
Alors, un abat-jour, c'est singulier. Au-dessus du front, il y a une sorte de chapeau transparent qui permet d'adoucir la couleur. Voilà, c'est ça, ce qu'on appelle l'abat-jour. C'est pas l'abat-jour avec lequel on allume pour l'extérieur. Et là encore, 2 commentaires formidables. l'un très méchant de Cézanne. Lui, c'est presque le même. On voit pas beaucoup de différence entre les deux, sinon on le voit moins bien. Et alors Cézanne, qui était quand même méchant, mais très attentif à la peinture, écrit à Émile Bernard, « Vous vous rappelez le beau pastel de Chardin, armé d'une paire de besicles et d'une visière faisant auvent ?» Voyez, l'abat-jour, c'est l'auvent. C'est un roublard, ce peintre. N'avez-vous pas remarqué qu'en faisant chevaucher sur son nez un léger plan transversal d'arêtes, les valeurs s'établissent mieux à la vue? Vérifiez ce fait et vous me direz si je me trompe. » Et puis Proust revient, parce que Proust était en admiration totale devant Chardin. Il faudrait que j'essaye de retrouver le texte que je ne trouve pas, mais ça va venir. Et pour Proust, c'était, paraît-il, c'était un des plus beaux tableaux qui n'ait jamais fait. Ce serait important que je le retrouve. Voilà. Et alors, c'est drôle, parce que Proust, à ce moment-là, en fait un fou. À cause de l'auvent. Ça se voit encore, il y a des peintres qui portent un auvent. Mon ami Valerio Adami, il a très souvent quelque chose. Et il y a des photos de Braque. Braque, en Normandie, il y a une lumière terrible. Hein. Quand il fait très beau, il y a une lumière effrayante en Normandie. Et l'atelier de Braque, paradoxalement, est exposé au sud, sous une verrière. On voit très souvent des photos de Braque avec cet auvent devant les yeux. On se demande ce que c'est. C'est exactement la même chose que pour Chardin. Alors, ce qui est intéressant dans Proust, c'est qu'il en fait un fou. Il en fait un fou. Depuis l'abat-jour vigoureusement enfoncé sur le front jusqu'au masulipatant, c'est un mot qui ne signifie plus rien, qui est en réalité un foulard. Noué autour du cou, tout donne envie de sourire, sans qu'on songe à s'en cacher devant ce vieil original qui doit être si intelligent, si fou, si doucement docile à accepter une raillerie. Voyez ce qu'il en fait. Si l'artiste, surtout, car chaque détail de cette toilette formidable est négligé, tout armé pour la nuit, semble autant qu'un défi à la correction et aussi un indice de goût. En voyant ces nœuds roses et jaunes dont la peau jaunie et rose semble garder les reflets, en reconnaissant dans le rebord bleu de l'abat-jour le sombre éclat des besicles d'acier, l'étonnement que la mise surprenante du vieillard excite d'abord se fond en un charme doux, dans le plaisir aristocratique aussi de retrouver jusque dans le désordre apparent du déshabillé d'un vieux bourgeois, la noble hiérarchie des couleurs précieuses, l'ordre des lois de la beauté. Mais en regardant mieux dans ce pastel la figure de Chardin, vous hésiterez, et dans l'incertitude de l'expression de cette figure, vous serez troublé, n'osant ni sourire, ni vous justifier, ni pleurer, et y termine. Souvent, quelquefois, nous rions devant les vieillards comme de vieux et charmants fous, mais quelquefois aussi, nous avons peur devant eux comme devant des fous. Voyez l'ambiguïté de Proust devant ce grand seigneur qui considère comme ce jour-là ayant joué au fou. 1875, 4 ans de différence avec le premier tableau. Alors, j'en intercale un autre, c'est Madame.
Ah, d'accord.
Madame, c'est la deuxième femme, parce que Madame...
Madame Chardin.
Madame Chardin... Deuxième femme qui avait le même âge que lui. Et le tableau suit juste le tableau de l'abat-jour. 76, tout à l'heure, on était en 75. Et alors, pâmoison des Goncourt. Pâmoison des Goncourt. Je vais être rapide parce que c'est assommant de lire tout le temps. Rien ne manque à cette prodigieuse étude de vieille femme, ni un trait, ni un ton. Le front d'une pâleur d'ivoire jauni, le regard tout refroidi et dont le sourire s'est envolé, le plissage des yeux, la minceur décharnée du nez, la bouche qui se creuse et se ferme à demi, ce teint semblable à un fruit sur lequel l'hiver a passé, Chardin exprime tous ces signes de la vieillesse, il en donne la sensation et presque l'approche avec ce crayonnage inimitable, insaisissable, qui met, on ne sait comment, le souffle de la personne sur les lèvres de son portrait, le tressaillement du jour dans le dessin d'une physionomie. Et comment expliquer cette bouche démeublée qui tourne, qui plisse, qui se tire, qui respire, qui a toutes les infinies délicatesses de lignes, de courbes, d'inflexions d'une bouche? Cela n'est fait que de quelques traits jaunes et de quelques balayures bleues. Et puis il termine par vraiment une grande critique de peintre. Vous voyez, elle a une peau qui est très blanche, elle a un nœud qui est bleu et quelque chose qui entoure sa tête qui est blanche. Et il montre comment les couleurs s'intervertissent. Ce bonnet blanc, absolument blanc, c'est du bleu. rien que du bleu. Ça, c'est la diffusion de la couleur. Et la blancheur de la figure est faite avec du jaune pur, car cette flerque figure n'a pas un blanc, trois points de craie jetés simplement dans toute sa tête, à la lumière du bout du nez, à la lumière des yeux. Et puis cette dernière phrase, qui est vraiment la phrase d'un grand critique d'art. Tout peindre dans son ton vrai, sans rien peindre dans son ton propre, c'est à ce tour de force et à ce miracle que le coloriste s'est élevé. Tout peindre dans son ton vrai, sans rien peindre dans son ton propre. Voyez que le contraste des couleurs qui va faire la joie du siècle suivant, il était chez Chardin. À propos du tableau de sa femme.
Il était donc dans la juxtaposition des couleurs, voilà. Et plus dans le mélange.
Juxtaposition de telle sorte que ce qui était blanc devient bleu, ce qui était jaune devient blanc. Oui, ça c'est du très 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 grand art. Et c'est intéressant parce que Proust est un peu autre chose. Proust, il se demande, il voit la vieillesse, il voit la folie, mais la couleur, elle est là, elle l'accompagne, elle l'inspire, mais il ne l'analyse pas. Avec les Goncourt, il y a une analyse absolument sublime.
Alors, avant de passer au dernier autoportrait, vous avez cité Pierre Rosenberg. Permettez-moi de lire une phrase.
Alors il faudrait le lire complètement, parce qu'il a passé sa vie pour Chardin.
Il écrit notamment, parmi tout ce qu'il a pu écrire, « Chardin ne savait pas peindre le mouvement, mais il a su transformer cette faiblesse en une force. »
Exactement. Et là, il le fait par, non pas la faiblesse, cette force, c'est la force de la couleur. Et ça, on ne le dit pas trop, parce qu'au fond... On est séduit par ce qu'il montrait, par le côté animal. Et la nature morte, il y en a un peu marre, si vous voulez. Tandis que là, je trouve, on touche le grand art. Alors le dernier, si vous regardez, vous avez devant vous les deux tableaux, la disposition est presque totalement identique
au premier autoportrait.
C'est presque la même chose.
Hein. Réalisé en 1777, 2 ans avant sa mort.
Oui, c'est même 79, je crois. Mais enfin, j'en sais rien. C'est au Chevalet 79, c'est l'année de sa mort. Et il meurt en face de la Seine, là. Hein, il meurt
au Louvre,
en face, là. Puisque, faisant partie de l'Académie des Beaux-Arts, il avait son appartement au Louvre et il y meurt. Vous voyez, on est en pleine atmosphère. Alors, le tableau, là, et c'est là que je voulais terminer par Rosenberg quand même, c'est la même disposition, exactement la même que l'autre. Sinon, qu'on aperçoit le bord du chevalet et puis dans sa main, et ça c'est très important, il a son instrument de travail, il a ce avec lequel il fait des tableaux. C'est plus un pinceau, c'est ce qui lui permet de donner la couleur. Et là, il faut terminer là-dessus, parce que Rosenberg est très pessimiste, là. Il écrit « Les traits du visage amaigris sont fatigués. Le regard a perdu de son ironie. » Vous avez vu l'ironie qu'on trouvait chez Proust. « L'attitude de son assurance. L'élève ne sourit plus. » Une forte lumière latérale éclaire le bleu du ruban, le bord du chevalet sur lequel est posée une feuille de papier à dessiner, la tache rouge vive du bâton qui tient de la main droite et qu'on voit très 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 bien. Chardin attire l'attention sur les instruments de ses créations et laisse son visage dans l'ombre. Et cette phrase, qui devrait être la dernière phrase, parce que là Rosenberg conclut, l'ultime image de soi qu'il a voulu léguer à la postérité est celle d'un artiste au travail. C'est quelqu'un qui avait travaillé toute sa vie et à la fin, grâce au pastel, grâce à ce crayon de pastel, je ne sais pas si on appelle ça un crayon ou un stylo, je crois qu'on dirait plutôt un crayon de pastel, grâce à ce pastel, il le met en avant. Alors que la position est presque la même, personnellement, je ne voyais pas tellement de différence, mais j'ai tort parce que j'ai les deux portraits devant moi. Entre le premier de 71, là, vous voyez qu'il est quand même beaucoup plus creusé. Et ce qu'on appelait, les lèvres ne sont pas tout à fait les mêmes choses. Les lèvres souriaient. À la fin, elles ne sourient plus. Je ne veux pas dire que le regard soit triste. Peut-être que le regard est plus perçant dans le dernier tableau. Enfin, on termine là par un chef-d'œuvre. Un chef-d'œuvre sur lui-même.
Pour terminer, est-ce que l'on peut dire que la consécration à l'époque, ce sont ses pastels plus que ses peintures ?
Je ne sais pas. Premièrement, je ne sais pas. Ça a beaucoup plu. Difficile de savoir. Ce qui est intéressant, c'est que les textes sont très postérieurs. Proust n'était pas son contemporain. Les Goncourt ne l'ont jamais rencontré. Et Rosenberg y a passé beaucoup d'années de sa vie, mais il ne l'a jamais vu. Et je crois qu'il a été... À mon avis, c'est très supérieur aux natures mortes. Mais ça, c'est un point de vue idiot, contemporain, bête et pressé. Bon, ça ne veut rien dire. Mais je trouve que le moment où il passe à lui-même... Ça devient un grand peintre. Et les Goncourt, pour étudier ses pastels, s'était mis devant les autoportraits de Rembrandt d'abord. Vous voyez, il jouait des deux, donc on attaquait au sommet. Donc honnêtement, je crois que sa gloire a été très postérieure à ce qu'il était très connu, mais sa gloire a été très postérieure, et sa gloire, elle date de... J'ai l'impression, je vais vous dire des sottises, mais qu'elle vient de 40 ou 50 ans avant. Bon, c'était un Morandi pas bien connu. Et au fond, Morandi, on adore ça, mais au bout du cinquième, on en a marre, on roupille. Tandis que devant les Chardins, se peignant lui-même avec ce regard triste, ben, on est en baba d'admiration.
Eh bien, merci Jacques Lubinet de nous avoir parlé de Jean-Siméon Chardin. Nous prenons note d'une prochaine émission Carrefour des Arts dédiée à l'œuvre ultime dans un mois. Merci à vous.
Ça sera sur Picasso.
Et ce sera sur Picasso. À bientôt.